monde, c'est Eric Legloire du podcast The Safe Game. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on reçoit Vincent Coirier, directeur commercial de Partout. Ça va, Vincent?
Ça va et toi?
Ouais, ça va, merci. Bon, bah, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème en fait, de ce dont on va parler, ça va être la phase de découverte pour les grands comptes. Et avant ça, Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous donner un peu ton background?
Ouais, donc je suis directeur commercial chez Partout depuis à peu près 2 ans. Donc là, j'ai une équipe qui est basée en France, en Espagne et en Italie. On est en tout une 13-14 sales et SDR. Et là, on va accueillir d'ici la fin de l'année, on sera entre 6 et 8 sales de plus pour une équipe à peu près de 20-22 personnes. Et avant d'être chez Partout, directeur commercial, j'ai aussi été commercial grand compte. Donc, quand je suis arrivé, on était 7. J'étais le deuxième sales grand compte avec comme objectif de reprendre la direction commerciale dès que possible. Et avant, j'étais commercial terrain dans une boîte qui s'appelle Fiducial où je vendais des logiciels informatiques aux hôtels. Donc, c'était vraiment des commerçants indépendants sur des cycles de vente assez courts. Et là, chez Partout, on est sur un cycle de vente qui est plus long, entre 4 et 8 mois. Et on s'adresse aux directeurs marketing et directeurs digitaux.
Ok. Et justement, je voulais commencer en te demandant, c'est quoi le livre qui a le plus influencé ta vie de sales et dans la phase de découverte?
Alors, j'ai pas vraiment lu de livre uniquement basé sur la phase de découverte. J'ai lu des bouquins du style spin selling. Je peux même pas vraiment dire que je les ai lus en entier. J'ai lu l'intro, mais il paraît que ces livres américains, quand on lit les 20 premières pages, on a l'idée globale du livre. Et donc, c'est un peu ce que j'ai fait sur spin selling. Mais voilà, ma méthode d'apprentissage, c'est plus sur les échanges que je vais avoir avec les sales d'autres boîtes ou les head of sales d'autres startups. Puis surtout sur mes rendez-vous que j'analyse pas mal et sur les rendez-vous que je peux faire avec d'autres sales. Et sinon, là, le livre que je lis en ce moment, que j'ai pas mal aimé, c'est « La 25e heure ». Donc, il permet d'optimiser son temps. Et j'en ai retenu un peu deux idées parce que j'ai essayé du coup de me focaliser sur ce livre, sur la partie « Sales ». Parce que le livre est plutôt assez générique pour les entrepreneurs. Et donc, l'idée que je me suis fixée, c'est toujours de chercher à, comme état d'esprit, de toujours chercher à tout optimiser. Ça, c'est un peu ma première leçon. Et ma deuxième, c'est vraiment de créer des moments de travail. Donc, j'ai coupé toutes les notifications, mail, Slack, Messenger. J'ai décalé mes applications de travail et de réseaux sociaux sur la 5e page de mon téléphone. Et puis, j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Inbox When Ready, qui me permet de cacher ma boîte mail. Et comme ça, je l'ouvre quand je veux. Et ça me permet de focus à fond. Puis là, je vais essayer d'écrire un article dans les mois qui viennent sur justement sur la 25e heure, mais 15 tips uniquement pour les sales.
Ok, et justement, en revenant sur Spin Selling, pourquoi tu avais lu ce livre-là? Enfin, pourquoi tu as commencé à le lire plutôt?
Bah, parce qu'à ce moment-là, il y avait des concurrents américains qui étaient en train d'arriver sur le marché et on s'est rendu compte que sur les 2-3 premiers dossiers sur lesquels on les rencontrait, on s'est pas mal fait exploser. Donc là, on a cherché à comprendre un peu comment ça fonctionnait et du coup, on a lu Spin Selling, on a travaillé aussi sur la méthode médique. Pour pouvoir après les implémenter. Et ouais, moi, spin selling, ce que j'en ai retenu un peu en un mot, c'est que la personne en face de toi, dans la vente grand compte, la première personne, c'est pas vraiment, ça va pas être la personne qui va décider. Donc, il faut pas mener la phase de découverte et le rendez-vous comme si jamais elle allait pouvoir prendre cette décision. Il faut plutôt chercher à la former, puisque ça va être celle qui va pouvoir exprimer par la suite ta solution. Et donc, ouais, la formée, donc du coup, la phase de découverte est différente, le closing est différent, plutôt que de demander à la fin quel est le timing que vous avez en tête pour utiliser la solution, comment est-ce qu'on va signer, c'est plutôt travailler sur la formation de comment vous allez prêter ça à votre direction.
Et justement, tu étais en train de parler de la phase de découverte. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails et expliquer, en fait, pour les auditeurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est la phase de découverte, ce que c'est justement?
Ouais. Alors, la phase de découverte, c'est la partie d'un rendez-vous, d'un R1, ou alors c'est une partie du cycle de vente, où l'objectif, ça va être de comprendre les besoins du client, les douleurs du prospect, ce qu'on appelle aussi parfois la pain. Elle peut avoir une durée assez variable. Ça peut être sur une vente one shot, elle peut durer une vingtaine de minutes. Sur un cycle de vente de plusieurs mois, elle peut durer 30 minutes lors du premier rendez-vous, ou alors elle peut durer toute l'heure. Et donc l'idée c'est vraiment d'identifier les besoins pour pouvoir apporter des solutions et y répondre.
Ok, et là, tu es en train de dire, bah, pour vous, du coup, c'est un cycle de vente entre 4 et 8 mois. Aujourd'hui, justement, bah, si tu attaques un nouveau compte, ça va commencer donc par un rendez-vous ou comment ça se passe?
Ouais, alors il va y avoir l'équipe SDR qui va prendre les rendez-vous ou les sales.
Ok.
Je pense que c'est assez important que les sales continuent toujours à prendre leurs propres rendez-vous pour qu'ils se souviennent de la galère que c'est et pour qu'ils se créent aussi leurs propres opportunités. Sinon, un jour, ils vont se désintéresser des rendez-vous pris par les SDR. Et donc, ensuite, ils vont organiser un rendez-vous qui va durer globalement une heure et demie selon le temps que le prospect peut avoir. Donc, voilà un peu le temps du premier rendez-vous.
Ok, et tu fais comment pour préparer justement ce rendez-vous?
Alors, pour préparer, bah déjà, on va se renseigner sur la boîte,
Ok.
sur ses stratégies. Moi, j'aime pas mal taper le nom de l'enseigne et aller dans les actualités Google. Ça va me permettre de faire vraiment un bon brise-glace et de se renseigner aussi sur la personne en elle-même. Ouais, les actualités, c'est vraiment le truc le plus intéressant pour pouvoir, quand tu arrives, avoir un échange qui va être directement naturel. Typiquement, le brise-glace, il faut éviter le brise-glace qui va être commun à tous les sales, comme par exemple les bureaux, les locaux. Ah, vous êtes bien ici. Donc, c'est commencer par une actualité, c'est un peu plus pertinent, quoi.
Ok, et enfin, combien de temps tu mets à peu près pour préparer ce rendez-vous?
Ouais, je dirais une demi-heure selon la
Okay.
taille du compte, selon la taille ouais, de l'opportunité. Selon l'importance, selon le nombre de personnes qu'il va y avoir en face, ça peut être assez variable.
Ok. Et du coup, en fait, comment tu structures ce rendez-vous? Tu peux nous expliquer un peu en fait, bah,
Ouais.
enfin, première partie du rendez-vous, comment ça se passe?
Alors, en gros, ma manière de voir la phase de découverte, elle a pas mal évolué. Avant, j'étais vraiment dans cette vision de la phase de découverte, c'est tu vois, c'est un temps imparti qui est dédié à la découverte. Et c'est au début du rendez-vous.
Ok.
Ça veut dire que tu as ton R1, les 20 premières minutes, les 20-30 premières minutes, tu fais ta phase de découverte.
Juste quand tu dis R1, c'est quoi?
C'est rendez-vous 1. C'est
Rendez-vous,
le
ok.
premier rendez-vous que tu fais avec ton
Ok.
prospect. Et donc après, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas forcément un temps qui devait être alloué dès le départ. Et surtout que, en fait, les prospects, pour moi, les méthodes de vente ont pas mal évolué parce que les prospects rencontrent de plus en plus de commerciaux et ont besoin de sentir que les méthodes ont évolué parce que, un peu comme un prospect est de mieux en mieux renseigné, bah, il est aussi de mieux en mieux renseigné par rapport aux méthodes de vente.
Ok.
Résultat, il a envie de sentir que ça ne va pas être un rendez-vous commercial et que ça ne va pas être un rendez-vous classique. Du coup, tu vois, il faut arriver à ce que ta structure de rendez-vous soit un squelette. Évidemment, il faut qu'elle soit structurée. Il faut que le squelette il soit invisible. Et il faut que la phase de vente, c'est la phase de prospection, la phase de démo, la phase de closing, soit un peu fondue d'une manière plus naturelle, sans que ce soit forcément visible, où le client va se dire, bah, encore un commercial qui va me poser 1 000 questions au départ, puis après il va me faire sa démo, il va me demander quand je vais pouvoir déployer, qui sont les décisionnaires, et il va essayer de me closer, chose qui n'est pas très agréable. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de faire une phase de découverte qui est fine. Qui est hyper naturel et qui est invisible. Et donc, tu vois, c'est de répartir, du coup, de ne plus faire une phase de découverte qui va être au début, mais de la répartir dans le temps. On va dire que tout le rendez-vous est une phase de découverte. Donc, tu vois, 60% de questions dans les 30 premières minutes, mais 30% durant les 20 suivantes, 10% durant les 10 dernières. Et voilà un peu l'idée que je me fais, tu vois, de la phase de découverte.
Et comment c'était venu l'idée de faire ça, justement, que ce soit ça devienne plus naturel?
Bah, tu te rends compte que quand tu fais vraiment une phase de découverte de 20 minutes, le prospect à un moment donné il en a marre, il sent un espèce de matraquage de questions, et là tu vas sentir à un moment que les réponses vont se raccourcir. Et quand les réponses se raccourcissent, eh ben, tu commences à perdre des informations. Et je me suis rendu compte que bah, justement, notamment grâce à la méthode médique qui est donc une méthode à l'américaine pour analyser un cycle de vente long terme. Sur la vente de SaaS, donc de produits, de logiciels informatiques qu'on vend de manière annuelle. Et donc, il y a une des thématiques dans la méthode médique qui s'appelle Champion et Trusted Advisor. Et l'idée, c'est de se positionner en tant que consultant et non pas en tant que commercial Et donc, dans la phase de découverte, plutôt que de matraquer de questions, l'idée, c'est plus… Alors, j'essaie de montrer l'image avec une table de mixage. Et l'idée, c'est que la table de mixage, tu la mixes avec trois choses. Tu as poser des questions, donner des infos marchés, de la culture, des histoires à propos de prospects, de clients, des anecdotes et quelques points sur ton produit. Et en fait, avec ça, tu évites cette phrase terrible de quand tu es commercial qui est genre tu as matraqué le prospect de questions pendant 20 minutes et à un moment donné, il dit « Bon, assez parlé de nous, présentez-nous ce que vous faites. » Et là, tu viens de finir ta phase de découverte. Elle sera plus dure à reprendre pendant les échanges. Alors que si tu arrives en fait à avoir un doux mélange de cette table de mixage entre des questions, des infos marchés, ça te fait penser à une anecdote et quelques infos sur ton produit et que tu balayes au fur et à mesure, et bien en fait, ta phase de découverte va être beaucoup plus longue et tu vas choper beaucoup plus d'infos.
Ouais, en fait, l'idée, c'est de faire une conversation en fait, avec le prospect.
Et c'est exactement ça, c'est d'arriver à ce que ce soit hyper naturel. Ouais. Et en fait, en faisant ça, tu vas pouvoir, je sais pas, genre au bout d'une heure de discussion, le plus important, c'est que la personne se soit dit « j'ai appris quelque chose ». Et si elle a appris quelque chose, du coup, tu vas devenir intéressant. J'écoutais un podcast ce matin où il parlait de l'importance d'être souriant, etc., etc., mais surtout de rendre… il faut que tu sois intéressant et il faut que le prospect ait le sentiment de pouvoir aller chercher d'autres choses intéressantes avec toi. Et pour aller chercher d'autres choses intéressantes avec toi, il faut que tu te sois positionné en trusted advisor. Donc, il faut que tu lui donnes des infos marché, des anecdotes et qu'il soit sorti de là en se disant « dis-donc, j'ai appris plein de trucs, je suis chaud pour faire un nouveau call avec lui. » Parce que tu lui as donné suffisamment lors de la phase de découverte. Alors que si tu fais que des questions, tu ne donnes pas. Et mon idée, c'est de se dire que tu vas donner autant que tu vas demander.
Ok. Et justement, toi, tu vois ça, la phase de découverte, comme un docteur qui essaye de prescrire un médicament à son patient ou comment tu vois ça?
Tu veux dire le côté… l'objectif, c'est de vendre précisément ce dont le client a besoin?
Ouais.
Ouais, alors ça dépend des manières de voir des entreprises, mais effectivement, l'idée d'une bonne phase de découverte, c'est que c'est un peu comme un commercial. L'objectif, c'est surtout de ne pas parler de toutes ses fonctionnalités parce que sinon, si jamais sa solution est complexe, il va complètement perdre le prospect dans les arguments. Et plus la phase de découverte est précise, plus il va pouvoir être précis dans les propositions. Et justement, un peu sur le modèle de spin selling, comme la personne qui est en face de toi, tu vas la former à présenter à sa direction. Elle va pouvoir retenir qu'une partie des informations. Pour pouvoir retenir qu'une partie des informations, il faut que tu puisses lui donner que les informations dont elle a besoin et tu lui donnes les bonnes informations par la phase de découverte que tu as faite.
Ok, et justement, quand tu dis le type d'information, quel type d'information ça peut être? Tu parlais tout à l'heure des chiffres du secteur ou.
C'est ta phase de recherche qui va primer. C'est vrai que c'est assez difficile à exprimer parce que ça va dépendre pas mal de ton secteur d'activité. Mais pour moi, c'est marrant que vous me parliez de ça. Votre difficulté par rapport à votre réseau d'indépendants et de comparer à un réseau qui est intégré, c'est que vous, c'est plutôt comme ci et comme ça. Là, ça me fait penser à un client qui avait exactement la même problématique. Mais ça peut aussi être, quand je lisais la 25e heure, je racontais ça à un prospect. Parce qu'on a parlé, d'organisation du temps de travail. Et l'idée, c'est vraiment, quand je me forme un peu en continu, je suis sur Twitter tous mes concurrents, je suis tous les acteurs du marché. Et à chaque fois que je lis une info intéressante, je fais en sorte de m'en servir dans la semaine. Par exemple, nous, on fait du référencement sur Google, sur Waze, sur Apple. Si je lis que Apple vient de faire une cartographie 3D du centre commercial de Quartz, je fais en sorte de forcément m'en servir dans la semaine pour pouvoir asseoir ma crédibilité sur mon secteur d'activité et pour pouvoir faire en sorte de me rentrer cette info dans la tête et que je pourrais réutiliser. Du coup, à force de faire plein de rendez-vous et de toujours additionner ces petites anecdotes et ces petites infos marchés, je vais cumuler des connaissances qui me permettront d'avoir un échange hyper naturel parce que j'aurai plein d'histoires à raconter. Et théoriquement, le prospect se dira qu'il a appris quelque chose et que c'était intéressant.
Et justement, quand tu racontes tes anecdotes, après, tu enchaînes sur tes questions de découverte ou…
Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut faire en sorte que les transitions soient assez rapides. Yes. C'est je pose une question, mais ça me fait penser à ça. Et d'ailleurs, vous, comment vous faites ça? Et là, après, derrière, tu peux aller en plus en profondeur dans les questions. Donc, vous me dites que vous faites comme ça, mais plus précisément. Et donc là, ça te permet de pouvoir rentrer plus loin. Une méthode que j'aime beaucoup aussi, c'est à chaque fois qu'on me pose une question, globalement, genre au moins 90% des fois, je vais reposer une question par-dessus. Ça, c'est vraiment un gros conseil que je peux donner parce que ça permet trois choses. Ça permet de pouvoir rentrer, ça permet de pouvoir vérifier déjà si j'ai bien compris la question. Ça permet de pouvoir rentrer plus en profondeur, enfin déjà, ouais, de vérifier, de rentrer plus en profondeur et de pouvoir s'assurer que ce soit précisément la réponse qu'il attendait.
Non, c'est bah, ça aide bien, je pense, à faire ça pour rentrer plus dans le détail. Et tu fais ça comment? Enfin, tu peux donner un exemple justement quand tu fais ça, si je te pose une question.
Vas-y.
Justement, j'étais en train de penser à une. Je sais pas, l'intégration de ta solution, si elle peut fonctionner avec Google Maps.
Quand tu dis Google Maps, est-ce que tu parles de la possibilité d'intégrer les informations dans Google Maps ou est-ce que tu parles de la possibilité d'avoir un compte et de rassembler toutes mes fiches pour pouvoir les gérer dans un seul endroit?
Justement, d'avoir un compte et de mettre toutes mes fiches au même endroit.
Ok, donc tu vois, ça me permet de pouvoir identifier. Donc je suis rentré dans un niveau en profondeur parce que ce que tu m'as dit, ce n'était pas forcément clair. Tu vois, est-ce que tu me parlais
Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais,
de Google Maps? Enfin voilà.
parce qu'il y a plein de détails. Après, je pense que des fois, les prospects, ils pensent être clairs, en fait, quand ils vont te poser la question. Et si tu essayes de répondre à la question sans avoir vraiment compris la question, va y avoir un décalage entre ce qu'il est en train de dire et ce que tu lui réponds.
Ouais, il y aura un décalage. Et puis, ouais, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que la troisième chose que ça te permet, c'est de pouvoir trouver une occasion en plus de le faire parler à nouveau 30-40 secondes. Tu vois, c'est un peu comme au rugby où ton objectif, c'est toujours essayer d'avancer de 2-3 mètres. Bah, en soi, le prospect, ton objectif est de faire en sorte qu'il parle toujours 30 secondes de plus. Qu'il ait toujours une raison de parler un peu plus. Et comme ça, tu vas choper le maximum d'informations.
Parce que tu sais, s'il parle plus aussi, il va peut-être laisser plus d'informations qu'il n'allait pas forcément dire si tu n'avais pas posé cette question.
Ouais, et puis comme tout le monde adore parler de soi, si tu veux, si tu arrives à le mettre suffisamment en confiance au départ avec le brise-glace et que tu as bien fait cette méthode de mixage, de poser des questions, de donner des infos, et ben là, quand il te pose une question, tu lui en poses une, bah, s'il va continuer à parler, ça va continuer à rentrer en profondeur, tu vas rentrer plus dans le détail et tu pourras mieux cibler par la suite.
Et justement, parce que tu étais en train de me dire, du coup, donc ta phase de découverte, tu l'as fait sur un rendez-vous ou tu l'étais placé sur d'autres rendez-vous?
En fait, pour une seule personne, globalement, je la fais sur un rendez-vous, mais comme j'estime que la phase de découverte, elle se fait un peu pendant toute la période du cycle de vente, avec la méthode MEDDIC, si tu veux, tu peux analyser sur chacune des thématiques, donc tu vois, de champion, de la pain, du process de décision, du décideur, etc. On arrive en fait à créer un framework, donc un méthode d'utilisation de cet outil qui te permet de savoir quel est ton niveau de connaissance sur chacune des thématiques, qu'est-ce que tu ne sais pas et comment tu vas faire pour pouvoir le savoir. Et comment tu vas faire pour pouvoir le savoir te détermine des questions qui en soient la continuité de la phase de découverte. Ça, c'est pour moi la première partie. Et la deuxième, c'est que en vente grand compte, tu vas avoir de multiples interlocuteurs. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que comme tu as fait une phase de découverte pendant le premier rendez-vous, du coup, tu sais déjà tout et tu n'as plus besoin de faire une phase de découverte lors du second rendez-vous. Par exemple, j'ai rencontré le responsable de l'acquisition trafic. Et ben, par la suite, si je rencontre le responsable SEO, si je rencontre le directeur digital, le directeur marketing, je vais faire quasiment la même phase de découverte, mais je vais m'appuyer sur ce que j'ai appris précédemment. Et c'est pour ça qu'en fait, une phase de découverte, quand elle est bien réussie, c'est aussi d'utiliser ce qu'on sait déjà. Si jamais j'ai la réponse à une question, je vais toujours la poser lors de ma phase de découverte. Parce que je sais que derrière, je vais pouvoir asseoir plus facilement ma crédibilité sur le marché, parce que je vais pouvoir aller plus facilement en profondeur, parce qu'en fait, je connais une partie de la réponse. Et du coup, je peux aller directement plus loin. Et donc, quand j'ai fait une phase de découverte avec un responsable SEO, quand je rencontre le responsable digital, il doit y avoir à nouveau la même phase de découverte, plus ou moins de la même durée. Mais avec des questions différentes qui sont plus axées sur son métier. On avait préparé chez Partout, tu vois, à un moment donné, on avait un projet, on savait tenir, je sais pas, genre 2 heures en rendez-vous. Et l'idée, c'était de pouvoir tenir 5 fois 5 heures sur 5 thématiques différentes. Et du coup, avec ça viennent cinq typologies de questions pour cinq interlocuteurs différents, cinq besoins différents et donc cinq phases de découverte différentes.
Okay. Quand tu disais justement typologie de questions, tu veux dire quoi par là?
Ben, un responsable SEO, tu ne lui poses pas les mêmes questions qu'un responsable de la relation client qui, lui, va s'occuper de la réponse aux avis. Donc, il faut avoir en fait autant de typologies de questions que d'interlocuteurs parce que ça ne va pas être les mêmes problèmes, ça ne va pas être les mêmes besoins.
Okay, donc, tu as déjà tes questions préfaites pour chaque persona en fait, que
bon,
tu
ça,
as rencontré.
C'est plus au moment du onboarding, de la formation, où là, tu as tes questions. Après, je fais en sorte de ne pas avoir trop de questions toutes faites parce que bah, justement, tu risques de couper ce naturel. Et comme l'objectif, c'est d'avoir un échange qui soit très fluide et très naturel, avoir une liste des questions prédéfinies risque de couper ce naturel, justement.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, si tu avais déjà ta liste de questions que tu arrivais et tu posais. Tu vas plus, comment dire, tu vas avec tes notes, mais j'imagine que tu es plus dans l'idée de remplir, enfin d'avoir telle information, mais tu vas pas poser 30 questions pour avoir cette information.
À mon avis, les questions, elles sont importantes. Enfin, c'est important de déterminer les questions par interlocuteur, mais c'est plus au moment du onboarding et de la formation. Et derrière, il faut faire en sorte que le commercial ne les apprennent pas non plus par cœur et utilisent strictement ces questions-là. Enfin, en gros, ce n'est pas des cases à causer. Des cases à cocher.
Oui, c'est ça. Non, je voulais savoir parce que sinon, en fait, c'est comme ce que tu es en train de dire. On revient sur le fait que ça ne va pas être naturel, ça va être vraiment un interrogatoire plus qu'autre chose.
Oui, et tu le sens d'ailleurs dans certaines solutions où la vente va se faire en ligne, que ce soit par des SDR ou des sales, c'est vraiment pareil. Tu sens quand le mec il est en train de cocher des cases. Et du coup, ce n'est pas très agréable parce que ça manque de fluidité et d'une question à une autre. Voilà. C'est vraiment très haché.
Ok. Et tu fais comment justement pour enseigner ça à tes sales, à tes vendeurs? Pour pas que ce soit, enfin, pour vraiment que ce soit une conversation, pardon, que ce ne soit pas justement un interrogatoire quand ils vont avec les prospects ou les clients.
Bah, c'est de les accompagner en rendez-vous pour les aider à travailler la phase de brise-glace. Et ouais, tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'on a eu le cas là récemment où on a un sales, tu vois, qui avait des difficultés, enfin d'ailleurs plusieurs, où on avait un peu de difficultés ces derniers temps à vraiment créer de la valeur. Et la valeur qu'on avait du mal à créer, c'est qu'il fallait reprendre. Et on a mis du temps à l'identifier. Il a fallu qu'on reprenne en fait vraiment la base. Et la base, c'était justement la phase de découverte. Et donc, la formation, c'est là où elle doit être vraiment continue. C'est de continuer à aller en rendez-vous. C'est de faire en sorte, on fait en sorte aussi que les sales aillent, fassent des rendez-vous ensemble pour qu'ils puissent se challenger mutuellement. Et en vrai, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. C'est plus de faire des rendez-vous ensemble, de se donner des conseils. Et aussi, s'il y a un outil, c'est de faire en sorte, au bout du. Dès qu'un sales est arrivé depuis, genre, je sais pas, 3 mois par exemple, l'idée c'est que le rendez-vous, en tout cas le premier rendez-vous, il n'y ait pas de présentation, il n'y ait pas de presse. Pas de presse et pas de démo. Et donc le sales doit se débrouiller pour gérer son rendez-vous d'une manière naturelle, sans support. Et c'est parce qu'il n'y a pas de support. Qu'il faut que ce soit fluide et il faut que ce soit un échange.
Ok, et justement, quand tu as un sales qui arrive et qui n'a jamais fait ça, tu fais comment?
Bah, du coup, je lui fais, j'ai une formation sur. On a un sales book, donc un peu une bible, le bible du sales, grand compte chez Partout, où on donne les tips que je donne plus ou moins ici sur comment gérer sa phase de découverte de la manière la plus naturelle possible. On fait en sorte qu'il puisse écouter pas mal de enfin qu'il aille au rendez-vous avec les customer success pour écouter des anecdotes, qu'il suive toutes les actualités. On a une channel sur Slack veille concurrentielle mais aussi veille marché pour qu'il ait le plus d'éléments et d'anecdotes à raconter à son prospect. Et après c'est pas mal d'expérience pour que ce soit qu'il y ait vraiment ce sentiment de fluidité.
Ok. Et justement, quand tu étais en train de dire là, sur les anecdotes de tes équipes de Customer Success, vous avez un book aussi, pareil, pour avoir toutes ces anecdotes? Ou justement,
Ouais. On a eu un PowerPoint avec une soixantaine d'histoires à raconter. La réalité, c'est que si tu les as pas utilisées au fur et à mesure, tu peux pas retenir des anecdotes. Tu vois, les anecdotes, tu les retiens correctement quand c'est la tienne déjà.
Oui.
Donc c'est là où ça prend un petit peu de temps. Mais tu la retiens parce qu'elle t'est arrivée et tu la racontes. Pas parce qu'on te les a enseignées. Sinon, ça semble pas très naturel, tu vois, de dire on a eu le cas avec un client, il lui est arrivé ça et ça. Ça va sentir assez récité jusqu'à ce que ce soit toi vraiment qui ait eu le
Ouais.
cas
Ah oui, je vois
dedans.
le truc. Ouais. Ouais, je vois qu'en fait, au final, tu fais plus. L'idée, c'est plus de leur montrer. Et lui, il assimile l'information à sa manière. Et après, il l'explique à sa façon, au lieu de lire un PowerPoint ou enfin de lire un document où il y a l'information dedans.
Ouais, exactement.
Ok. Ah, bah, c'est, j'avais pas pensé, mais en tout cas, c'est bien de savoir ça. Parce que je voyais pas ça comme ça. Et justement, comment t'as fait toi pour te former sur la phase de découverte? C'est en lisant des bouquins, tu as eu comment dire, un directeur commercial qui t'a enseigné de cette façon-là?
Ouais, alors j'avais mon ancien boss, justement, quand j'étais sur la vente aux commerçants indépendants, qui m'avait expliqué, par exemple, que pour pouvoir trouver un brise-glace facilement, quand tu arrives de manière physique, en tout cas, quand tu arrives physiquement dans l'entreprise, tu fais ce qu'on appelle le 360 degrés. Et en fait, pour éviter justement vos locaux, ils ont l'air bien, vous êtes bien installés. Qui sont en fait tous les brise-glaces que tu peux imaginer au premier abord, tous les autres sales le font. Il faut imaginer que le prospect, il va se faire, je sais pas, genre peut-être entre 7 et 10 rendez-vous par semaine avec des commerciaux. Donc ton brise-glace de première intention, il est forcément en doublon avec un autre commercial. Et donc le 360, en fait, c'est d'aller se promener à l'accueil et de voir, enfin, ou dans les premiers couloirs, et de voir les affiches qui peuvent être au mur, de voir si jamais il y a des notes au personnel. Et ça peut te faire une première accroche. Et puis sinon, c'est d'aller justement sur les actualités sur Google. Et au moins, tu commences par ça. Donc, ça, c'est le côté 360. Et après, sur la formation, à mon avis, au départ, c'est vraiment d'écouter les sales. Du coup, moi, là encore maintenant, j'écoute pas mal les sales et comment ils font leur méthode de découverte pour après travailler dessus, réfléchir dessus et après en faire des formations. Et puis j'ai un document sur chaque sales qui rassemble tous les résumés de rendez-vous. Donc le sales fait un
Okay.
feedback sur ce rendez-vous. Moi, je lui donne ensuite un feedback. Il est rassemblé dans un document. Et puis j'essaie maintenant depuis peu de temps de transférer ça avec leur accord, de transférer ça aux autres sales pour que chacun voit un peu les différentes problématiques qu'il a pu rencontrer. Et après, j'utilise aussi la méthode MEDDIC pour structurer les points que je veux atteindre. Pour savoir comment est-ce que le mec est champion, comment le rendre encore plus champion, et ben dans ma phase de découverte, ça m'aide pour pouvoir pour le coup cocher un peu cette case, même si c'est un peu de manière naturelle. Et
Et
puis aussi,
justement,
j'ai fait intervenir un prof de théâtre qui a fait une formation sur un peu la gestion des premières minutes pour qu'il se sente le plus à l'aise.
Ok. Et quand tu dis les premières minutes de la phase de découverte, enfin des rendez-vous qu'ils ont avec les prospects,
Ouais, en
en
gros, déjà, les
général.
3 premières minutes vont déterminer si ta phase de découverte va être fluide. Parce que si tu veux, si tu es à l'aise et que tu fais un bon brise-glace, la phase de découverte derrière, la personne va être beaucoup plus à l'écoute et ça va, et du coup, ça va glisser.
Ok, et comment tu structures ces 3 premières minutes? Tu parles du brise-glace et après tu fais comment?
Bah, c'est quand même principalement le brise-glace et
Ok.
justement, c'est d'arriver à directement à partir, tu vois, par exemple, quand j'arrive en rendez-vous. Je fais surtout pas le côté j'allume mon ordinateur, je branche mon adaptateur, le PowerPoint est prêt, je sors mon cahier et je mets sur le côté l'ordinateur. Ça montre à ton prospect que clairement, là, on rentre en phase de découverte et ensuite mon ordinateur est prêt, on va rentrer en phase de démo et de présentation de ma presse PowerPoint. Tu vois, je fais en sorte que ce soit hyper fluide lorsque je commence à m'installer et à sortir mon cahier, parce que toujours la prise de notes est sur cahier pour pas briser justement la fluidité d'échange. Et ben pendant que je m'installe, je commence à discuter, je parle éventuellement de ces postes précédents si jamais j'y ai vu un quelconque lien avec un client existant. Donc c'est vraiment là où la phase de recherche en amont va être utile. c'est que quand je vais être avec lui dans la salle et qu'on s'installe, on va discuter.
Ok. Justement, pour revenir sur l'information, tu disais que soit tu cherches une information sur la boîte, soit tu cherches une information sur le prospect. Là, tu es en train de parler des boîtes dans lesquelles il bossait. Tu cherches d'autres types d'informations?
En fait, ça dépend jusqu'où tu veux. Enfin, ce prospect est important et du temps que tu as, mais tu vois, les articles qu'il a likés, les articles qu'il a éventuellement écrits. Tu peux chercher des citations du PDG, du DG, sur la stratégie digitale. Quand tu vas sur la personne, tu peux regarder aussi, je sais pas, où est-ce qu'il a étudié. En fait, l'idée, ce n'est pas forcément de servir de toutes les informations que tu vas pouvoir avoir trouvées. Ouais. C'est juste le moment où il va y avoir une possibilité d'accroche, tu vas pouvoir la saisir beaucoup plus facilement. Tu vois, je te donne un exemple qui m'est arrivé en entretien. J'avais un sales qui me dit, on parle de travailler à Reims ou quelque chose comme ça, et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Reims? En fait, j'avais passé 3 ans de lycée à Reims. Donc, du coup, si tu n'es pas en possession de toutes les informations, tu peux passer à côté d'un potentiel lien à faire. Tu peux foirer si jamais, tu vois, dire, je sais pas, si jamais tu commences à dire que c'est difficile de travailler avec les agences et que la personne, en fait, elle a travaillé pendant 6 ans dans une agence, bah, c'est pas très fin, quoi.
Ouais. La personne, elle va se braquer, quoi. Elle va pas.
Ouais, exactement.
Ok. Et pour toi, la phase de découverte, c'est une des phases les plus importantes du cycle de vente?
Ouais, c'est ce que je te disais. Tu vois, on a eu le cas. En fait, quand tu reprends, quand tu as des problèmes dans ton cycle de vente, je sais pas, genre le prospect te répond plus trop, il n'arrive plus à percevoir l'intérêt de la solution, tu ne suscites plus l'intérêt. C'est probablement que tu as fait une phase de découverte qui va être trop courte. Ou alors un premier rendez-vous qui va être trop court parce que tu vas tout lui avoir donné. Tu vas lui avoir fait une phase de découverte, tu vas lui avoir fait une démo, la presse, tu lui as donné le tarif. Du coup, il n'a plus besoin de toi. Tu vois, si tu arrives bien à allonger cette phase de découverte, et j'insiste vraiment sur le côté de la phase de découverte, ce n'est pas les premières minutes, c'est vraiment tout le long. Mmh. D'ailleurs, ta prise de notes doit s'en faire ressentir. En soi, si tu arrives à faire une belle phase de découverte, toute ta vente, qu'elle soit, déjà si tu es sur des ventes one shot, une bonne phase de découverte augmente tes chances de signer. Et si tu es sur une phase de découverte qui va être sur un cycle de vente grand compte, en fait, cette phase de découverte, ça ne va pas être que les questions, ça va être aussi toute la construction de ton positionnement de trusted advisor, donc de conseiller plus que de vendeur, et de la création de ce champion qui va pouvoir. Le champion, c'est celui qui va porter ta solution en interne, c'est celui qui est intéressé par ta solution, mais c'est plus que ça, c'est qu'il va donner les tips, tu vois, par exemple, notre directeur général, il est très orienté maths, donc du coup, lui, ça va être le ROI, c'est pas forcément le tarif, notre période forte, ça va être celle-là, mais la manière pour pouvoir signer, ça va falloir que ça passe par le légal, mais le légal, ils vont mettre plusieurs semaines, toutes ces infos-là, c'est parce que tu as fait une phase de découverte où à un moment donné, tu as réussi à créer une équipe, tu vois. C'est parce que tu l'as rendu relax, qu'il t'a donné des bonnes infos, que tu lui as toi aussi transmis ces bonnes infos, que du coup tu vas pouvoir créer cette équipe. Ça, c'est un peu le closing du champion, c'est d'arriver à valider le côté genre, ok, donc maintenant vous êtes intéressé par la solution, comment est-ce qu'on va y arriver, comment on présente ça à votre direction. Et tout ça, c'est parce que tu as mis en place cette belle phase de découverte.
Et si tu n'as pas de champion, justement, ça se passe comment?
Et dans ce cas, tu fais en sorte que, du coup, là, tu n'as plus un champion, tu as probablement déjà, il y a un entre-deux entre le champion, le contact et l'ennemi. Mais dans ce cas, il faut chercher à l'éliminer. Soit parce que tu arrives à ce qu'il peut être en relation avec quelqu'un qui semble plus sur ton secteur. Donc, par exemple, si tu avais un responsable digital, tu lui demandes de te mettre en relation avec le responsable SEO, puis tu vas chercher un autre champion. Parfois, le champion, ça peut être le décideur. Et le décideur, lui, derrière, il doit vendre un peu à ses équipes opérationnelles. Parce qu'il ne veut pas mettre en place quelque chose qui n'a pas été validé par tout le monde. Donc, le champion peut être le décisionnaire.
Ouais, parce que si tu vends un truc où même les équipes ne vont pas l'utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, non?
Ouais, exactement. Et donc, c'est ça qui est trop cool dans la vente grand compte. C'est que tu as vraiment des multi-interlocuteurs à convaincre. Et tu n'as pas encore découvert au fur et à mesure, tu ne sais pas encore si ton champion, c'est le premier interlocuteur.
Ok. Et si tu as 3 conseils à donner sur la phase de découverte pour grand compte, qu'est-ce que ça serait?
Alors, là, je dirais, ouais, un gros conseil, ce serait de travailler sur sa prise de notes. En fait, une phase de découverte, en général, tu regardes, tu vois si jamais elle a été bien menée par la prise de notes, du commercial. Tu regardes, en général, la prise de notes, elle va se concentrer sur les 10 premières minutes et derrière, ça va être complètement lâché. La prise de notes représente, en général, la qualité de la phase de découverte. Et une phase de découverte où la prise de notes est mauvaise, quand tu finis ton rendez-vous, tu as déjà forcément oublié à peu près 50% des informations qu'il a pu te donner. Donc la prise de notes, c'est quelque chose qui est antinaturel parce que tu es en train de faire deux choses à la fois. Donc tu prends des notes pendant que ton prospect te parle. Et donc il faut arriver à séparer l'attention de son cerveau en deux en fonction de l'intérêt immédiat de ce que le dit prospect. Donc, ça veut dire que si jamais il te dit un truc qui est très intéressant, bah là, tu écoutes à 100%, tu focuses sur ce qu'il dit. Et dès que ce qu'il dit commence à perdre un peu en intérêt, là, tu diminues ton focus, c'est parce que ça devient moins important. Et là, tu prends des notes à la fois sur ce qu'il est en train de dire et à la fois sur ce qu'il a dit précédemment. Et parce que tu vas avoir une belle prise de notes, tu vas pouvoir te servir, enfin, parce que tu as pu prendre des notes de qualité, cette phase de découverte va être la plus optimisée. Donc ça, ce serait vraiment ma plus grosse recommandation sur tirer le maximum de la phase de découverte. Et une bonne technique aussi pour la prise de notes sur la phase de découverte, c'est de noter des citations entre guillemets, parce que ça permet de pouvoir, pendant le rendez-vous ou à la fin du rendez-vous, pouvoir lui dire, bah, précisément, vous m'avez exprimé ça comme ça, vous m'avez dit que, et ça servira par la suite dans le cycle de vente.
Et la troisième recommandation.
Troisième recommandation pour
Conseil.
faire une bonne phase de découverte. J'en ai pas comme ça, mais je t'en trouverai d'autres.
Non, pas de soucis. Et justement, on arrive sur la fin de l'entretien. Et j'ai la dernière question justement que je pose à chaque fois. C'est pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain pour qu'ils puissent s'améliorer dans leur rôle de vendeur?
Ça serait d'essayer d'arrêter de voir la phase de découverte comme un moment défini d'une certaine durée en début de rendez-vous. Ce serait vraiment d'arriver en fait à poser des questions que du début du rendez-vous jusqu'à la fin et d'avoir des notes qui correspondent à ces questions des débuts à la fin. Et surtout, je dirais que c'est de donner autant d'infos au prospect qu'on en demande pour qu'il puisse sortir en ayant le sentiment d'avoir appris quelque chose.
T'as quelque chose à rajouter?
Bah de continuer à écouter des podcasts de The Sales Game, d'écouter aussi d'autres podcasts qui se font aux États-Unis parce qu'ils ont une manière de voir la vente qui est assez intéressante. Et voilà, en gros, pour les dernières recos.
Du coup, merci pour être venu aujourd'hui sur le podcast et merci de nous avoir écoutés. Ciao!
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!